Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et Kabadou en votre compagnie. Il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du mercredi 17 octobre 2018. Et au sommaire ce soir, en Côte d'Ivoire, les professeurs de l'université Houphouët-Boigny ont mis fin à leur grève. En République démocratique du Congo, le virus Ebola continue de sévir et les autorités parlent d'une deuxième vague. Antonio Guterres appelle au calme et au dialogue aux Comores après de violents affrontements. À Dakar, au Sénégal, un reportage sur le coût des transports. Affaire Jamal Khashoggi, après Riyad, le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est rendu à Ankara, en Turquie. Ne manquez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En Côte d'Ivoire, les professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en grève depuis plus d'un mois pour le non-paiement d'heures supplémentaires, ont mis fin à leur mouvement après une ouverture de dialogue. Le point avec Nani Talani.
Dans un communiqué, la Coordination nationale des enseignants et chercheurs de Côte d'Ivoire, le syndicat à l'origine de la grève, souligne qu'un accord a été conclu pour la levée du mot d'ordre. Le professeur Abou Karamoko, président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, affirme avoir réglé le problème et payé la totalité des sommes dues, ce que conteste la coordination, qui pointe du doigt le mode de calcul des heures supplémentaires et réclame le paiement intégral des sommes dues. Le professeur Karamoko déplore la mise en péril de l'année académique en cours. Depuis que dure cette grève, ce sont 4 semaines de cours qui se trouvent ainsi perdues. Les professeurs s'étaient mis en grève illimitée le 5 septembre, mettant totalement à l'arrêt l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la plus importante institution académique du pays avec plus de 60 000 étudiants.
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian effectue un déplacement axé sur la sécurité et l'éducation en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso voisin, victime d'attaques terroristes à répétition. À Abidjan, il rencontrera le président ivoirien Alassane Ouattara avant d'assister à une présentation du projet d'académie internationale contre le terrorisme qui doit voir le jour en 2019. Au Bénin, l'opposant politique et homme d'affaires Sébastien Ajavon ne se rendra pas à son procès demain jeudi, a annoncé l'un de ses avocats qui dénonce de graves irrégularités dans la procédure. Il est mis en cause pour trafic de cocaïne. En octobre 2016, M. Ajavon avait été arrêté après la découverte d'environ 14 kilos de cocaïne pure d'une valeur estimée à 9 milliards de francs CFA dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés. Un non-lieu définitif dans l'affaire du Diola, ce ferry sénégalais qui avait chaviré au large de la Gambie en 2002, tuant près de 2000 personnes, dont une vingtaine de Français. Mardi, la Cour de cassation à Paris a prononcé un non-lieu définitif. Une instruction avait été ouverte en France il y a plus de 15 ans suite à la plainte des familles de victimes françaises. En République démocratique du Congo, la riposte contre l'épidémie Ebola continue. Déclarée depuis le 1er août dernier, Ebola a déjà fait au moins 139 morts sur les 217 cas signalés dans la région de Beni en Ituri, dans le nord-est du pays. Le défi majeur pour les équipes de riposte sur le terrain reste l'insécurité. Nous reviendrons sur ce dossier dans notre partie magazine. Toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé la signature d'un accord de développement exclusif avec 2 entreprises chinoises et espagnoles pour tenter de financer son projet de méga barrage hydroélectrique Grand Tinga sur le fleuve Congo d'une capacité de 11 000 mégawatts. Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, a assuré qu'il n'y avait ni torture ni opposants emprisonnés dans son pays dans une interview accordée à la télévision publique espagnole. Monsieur Obiang, qui dirige le pays d'une main de fer, a également affirmé qu'il n'y avait personne, pas d'opposants en prison, alors qu'il vient d'annoncer qu'il graciait une 30aine d'opposants qui attendent leur libération. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle au calme et au dialogue aux Comores. La Commission de l'Union africaine aussi appelle à la plus grande retenue. C'est au lendemain de violents affrontements entre l'armée comorienne et des opposants. Le point avec Morgane Guiriec.
Dans un communiqué, Antonio Guterres exprime sa préoccupation face à la tension sur l'île d'Anjouan. Il appelle au calme dans l'intérêt de la paix et de la stabilité des Comores. Il a exhorté tous les acteurs politiques à reprendre le dialogue, entamé sous la facilitation de Ramtane Lamamra, représentant de l'Union africaine. De son côté, la Commission de l'Union africaine appelle toutes les parties à faire preuve de plus grande retenue et déplore la suspension du dialogue depuis le 2 octobre. Lundi, des protestataires ont érigé des barricades. à Moutsamoudou, la capitale de l'île d'Anjouan, considérée comme un fief de l'opposition. Des affrontements à l'arme automatique ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. Le climat politique s'est dégradé depuis le référendum du 30 juillet qui a renforcé les pouvoirs du président Azali Assoumani, l'autorisant à faire deux mandats successifs au lieu d'un. Les opposants ont boycotté ce scrutin, qualifiant son régime de république bananière.
En Tanzanie, au moins 6 élèves ont été tués par la foudre et une vingtaine blessés lorsque leur école primaire dans le nord du pays a été frappée par la foudre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est allé à Ankara après sa visite en Arabie Saoudite. Il a eu des entretiens avec les responsables turcs sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Mike Pompeo s'est entretenu avec le président Recep Tayyip Erdogan. Le secrétaire d'État a aussi rencontré son homologue turc Mevlut Cavusoglu. Il est arrivé à Ankara au moment où la presse pro-gouvernementale a publié de nouvelles révélations accablantes pour Riyad. Elle parle de tortue et d'assassinat de Jamal Khashoggi par des agents saoudiens dans le consulat de son pays le 2 octobre. Malgré des indices impliquant l'Arabie Saoudite dans la disparition du journaliste, Washington accorde le bénéfice du doute à son allié et évoquant la volonté des autorités saoudiennes de mener leur propre enquête, même si le prince Mohamed Ben Salman est indexé dans cette affaire. Ce mercredi, le président Donald Trump a affirmé que les États-Unis ont besoin de l'Arabie saoudite dans la lutte contre le terrorisme. Lors de sa visite à Riyad en mai 2017, M. Trump a annoncé des contrats d'armement d'un montant record de 110 milliards de dollars, dont une grande part ne s'est pas encore concrétisée.
Par ailleurs, le président Donald Trump a nié chercher à couvrir ses alliés saoudiens dans l'affaire de la disparition du journaliste. « Je veux juste savoir ce qui s'est passé », a dit M. Trump à des journalistes à la Maison-Blanche. « Je ne couvre pas du tout les Saoudiens », a-t-il insisté. Le président américain a aussi déclaré s'attendre à ce que la vérité soit connue d'ici la fin de la semaine sur la disparition du journaliste saoudien. L'aviation israélienne a mené une série de raids contre le Hamas à Gaza en frappant une vingtaine d'objectifs militaires, parmi lesquels un tunnel et une fabrique d'armes. Selon l'armée israélienne, ces raids sont en réponse aux premiers tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. Bilan, un mort et 3 blessés palestiniens. En Crimée, les 17 élèves tués dans l'attaque d'un collège technique l'ont été par balle, a annoncé le comité d'enquête russe qui avait jusqu'à présent seulement évoqué l'explosion d'un engin non identifié. Le Canada est devenu ce mercredi le premier pays du G20 à légaliser le cannabis récréatif. Cette réforme historique est saluée par de longues files d'attente de consommateurs levés aux aurores pour être parmi les premiers servis. Le point avec Irénée Hermanongbo.
Les tout premiers clients ont acheté leur premier gramme de marijuana à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, dans l'est du Canada. De Québec à Toronto, certains clients ont fait la queue toute la nuit devant les boutiques. Le gouvernement a voulu permettre à chaque province d'organiser ce commerce de l'herbe. Chaque région a sa propre recette dans ce marché évalué à environ 4 milliards d'euros par an. Selon les statistiques officielles, 16% de la population canadienne a fumé du cannabis en 2017, ce qui représente 773 tonnes de drogue douce. Les 120 producteurs autorisés ne seront pas en mesure dans l'immédiat de satisfaire tout le monde. 3 ans après son élection, le gouvernement libéral de Justin Trudeau réalise l'une de ses promesses symboliques de campagne. Le Canada devient le 2e pays de la planète à autoriser le marijuana récréative après l'Uruguay en 2013. Aux États-Unis, la consommation de cannabis est légalisée dans 8 États. Au début de l'année, la Californie est devenue le plus gros marché légal de cannabis au monde.
En Iran, le procureur général a averti qu'il ne laisserait pas se répéter l'autorisation exceptionnelle donnée hier à des femmes d'assister à un match de football masculin dans un stade. Mardi soir, une centaine d'Iraniennes ont été admises au stade Azadi de Téhéran pour assister à un match de football amical entre l'Iran et la Bolivie après que les autorités locales eurent donné leur accord. En Inde, le mouvement contre le harcèlement sexuel, MeToo, a empoché sa première victoire après la démission d'un ministre du gouvernement nationaliste hindou, mis en cause par une vingtaine de femmes. Plusieurs personnalités indiennes de l'industrie du spectacle et des médias se sont vues accusées de comportements inappropriés envers des femmes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La République démocratique du Congo a annoncé la signature d'un accord de développement exclusif pour financer son projet de méga barrage hydroélectrique Grand Inga sur le fleuve Congo d'une capacité de 11 000 MW. Deux entreprises chinoises et espagnoles vont financer des études d'exécution à l'issue desquelles le consortium unique devra soumettre les contours définitifs du projet de centrale. Le coût est estimé à 14 milliards de dollars et la construction devrait durer entre 5 et 11 ans. Nouvelle stratégie pour l'intégration régionale de l'Afrique de l'Est entre 2018 et 2022. La feuille de route vise à accélérer l'intégration régionale et le développement des infrastructures. Ce plan estimé à 3,3 milliards de dollars facilite les opérations régionales de la Banque africaine de développement dans 13 pays de la sous-région, à savoir le Burundi, les Comores, le Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Terminons avec l'administration Trump qui entend négocier des accords de libre-échange séparés avec le Japon, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Washington déplore le déficit commercial avec ses partenaires. Le représentant au commerce publiera les objectifs de ces négociations au moins 30 jours avant le début formel des tractations, mais il ne précise pas si ces pays ont donné leur accord de principe pour discuter.
C'était Nani Talani à la Minute Éco. Place à présent à la page sportive qui nous est présentée ce soir par Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ekia, bonsoir à tous.
Thierry Henry, de retour à Monaco.
La conférence de presse d'intronisation a eu lieu ce mercredi. Thierry Henry est donc le nouvel entraîneur du club de la Principauté, actuellement 18e de la Ligue 1. Quand j'ai reçu l'offre de Monaco, c'était le choix du cœur, a précisé Thierry Henry. Monaco s'est présenté comme une évidence pour moi. Le nom de l'ex-joueur emblématique d'Arsenal avait déjà été cité les mois précédents du côté de Bordeaux ou encore d'Aston Villa. On rappelle que Thierry Henry, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts en 123 sélections. Formé à Monaco, l'ancien joueur de 41 ans va connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur principal d'un club. Il avait été pendant 2 ans l'adjoint de Roberto Martinez à la tête de la sélection nationale de la Belgique.
Retour sur la Ligue des Nations en Europe.
L'équipe de France a renversé l'Allemagne hier soir grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Les Bleus s'envolent en tête de leur groupe de Ligue des Nations. L'Ukraine a continué son sans faute en dominant la République tchèque 1-0. Sans Gareth Bale, le Pays de Galles a tout de même réussi à s'imposer en Irlande 1-0. Et puis en amical, la Belgique a concédé le match nul 1-0 face aux Pays-Bas.
Neymar fait mieux que Pelé.
Titulaire et passeur décisif hier soir lors de la victoire du Brésil contre l'Argentine 1-0. Neymar a surtout dépassé le roi Pelé au nombre de cette sélection cette semaine. 94, Pelé n'en comptait que 92. Bon, Neymar est encore loin du recordman brésilien des sélections, Cafu, 142 sélections entre 1990 et 2006.
Le Barça à la rubrique justice.
L'ancien président du FC Barcelone, Sandro Rosell, va être jugé pour blanchiment d'argent lié en particulier à la vente des droits télévisés de matchs de l'équipe du Brésil. Hormis Rosell, à l'encontre duquel le parquet réclame une peine de 11 ans de prison, une amende de 59 millions d'euros, son épouse, son avocat et 3 autres personnes sont jugées dans cette affaire.
Et puis la NBA a repris ses droits cette nuit aux États-Unis.
Et comme le veut la tradition, Golden State a donné le coup d'envoi de cette saison après avoir célébré une dernière fois son titre de champion NBA conquis en juin dernier. Stephen Curry et ses coéquipiers se sont fait peur, mais ils ont finalement pris le meilleur sur Oklahoma City, 108-100. Le premier match de la saison avait été remporté un peu plus tôt par Boston face à Philadelphie, 105-87.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de réfugiés et des migrants avec statut ont été expulsés d'Angola lors d'opérations menées par les forces de l'ordre. Beaucoup d'entre eux ont fui la guerre au Kasaï, d'autres sont partis travailler dans le secteur des mines. La plupart sont jugés être en situation irrégulière sur le territoire angolais. Eddy Isengo a joint le porte-parole du HCR à Kinshasa, Andreas Kirchhoff.
Les autorités de l'Angola mènent une grande opération qui vise à expulser des gens qui considèrent des migrants de plusieurs nationalités. Il y a des personnes qui se sont rendues sous l'impression d'un ultimatum où on a été forcé de partir vers la RDC. Les chiffres, peut-être 200 000, c'est des estimations. Parmi eux, on a trouvé qu'il y a un petit nombre de personnes qui disent avoir été des réfugiés. Et nous, comme au commissariat des Nations pour les réfugiés, suit ces cas et se renseigne sur ces informations pour pouvoir faire un suivi. Mais en gros, l'opération ne cible pas les réfugiés. Ça, les autorités angolaises nous ont assuré. Les réfugiés qui ont fui le conflit du Kasaï en RDC et ont demandé l'asile en Angola.
Comment confirmez-vous que quelques-uns d'entre eux sont des réfugiés et quel est le nombre de réfugiés parmi eux?
Donc, en 2016-2017, il y a eu un conflit en RDC dans la région du Kasaï, qui est frontalière avec l'Angola. Plus de 30 000 personnes ont demandé l'asile en Angola. Ils se trouvent actuellement dans plusieurs endroits, entre autres à Lovua, en Angola. Et ces gens, ils détiennent des documents qui confirment leur statut de réfugié, ce qui, normalement, selon le droit international, devrait empêcher qu'ils soient expulsés par l'Angola. On a quand même porté à notre connaissance 47 cas des personnes qui auraient été expulsées, des réfugiés avec ces 200 000 autres personnes. Et on suit cela, on va vérifier les documents, leur enregistrement et les circonstances de leur envoi en RDC.
Comment s'effectuent ces expulsions? Est-ce que c'est dans le respect des droits de l'homme?
Il y a eu aussi dans la presse angolaise beaucoup d'informations sur des actions violentes lors des expulsions. Les HCR n'étaient pas sur place, donc on n'est pas en mesure de vérifier ces informations, mais ça c'est certainement quelque chose de préoccupant, tel comme les récits des gens qui arrivent en RDC qui disent qu'ils ont été taxés avec le peu qu'ils possédaient encore. Et à cela s'ajoute aussi les conditions d'accueil très difficiles.
Les gouvernements angolais parlent de rapatriement volontaire. Comment expliquer que les réfugiés soient au nombre alors qu'ils sont supposés être dans des camps?
On ne sait pas exactement encore sous quelles circonstances ils ont été pris, mais on doit faire le suivi pour assurer que ces personnes aient la protection. Ils aient aussi une solution. S'ils disent qu'ils veulent rentrer en Angola, c'est quelques réfugiés, on devrait voir quelles possibilités il y a pour leur donner la protection de l'Angola de nouveau.
Andrea Kirchhoff, le porte-parole du HCR à Kinshasa. En République démocratique du Congo, la riposte contre l'épidémie Ebola continue, déclarée depuis le 1er août dernier. Ebola a déjà fait au moins 139 décès sur les 217 cas signalés dans la région de Beni et en Ituri, dans le nord-est du pays. Le défi majeur pour les équipes de riposte sont sur le terrain et reste l'insécurité. Les équipes médicales sont obligées d'être escortées par l'armée et les casques bleus pour aller sensibiliser ou vacciner la population dans certains endroits. Charlie Kasereka, envoyé spécial de VO Afrique à Beni pour le reportage.
Ici, par peur, certains villages ont été vidés par leurs occupants suite aux multiples attaques des ADF ou les Maï Maï. Difficile donc aux équipes de médecins ou des sensibilisateurs de traverser ces zones pour aller soit vacciner ou récupérer les cas suspects d'Ebola. L'autre défi, c'est des tensions sociales qui bloquent souvent le travail des experts sur terrain. Dr Njolo Kotambwe-Baté, directeur de la riposte, explique sur VOA Afrique.
Chaque fois qu'il y a des affrontements dans la ville de Beni, le lendemain, les gens ne nous écoutent pas. Surtout s'il y a eu des morts, ils ne nous écoutent existe pas du tout. Il faut encore reprendre à zéro. Nous sommes toujours escortés. Cette semaine, au moins, ça a été la première semaine où on n'a pas eu de problème. Si nous arrivons à en avoir comme ça 2, 3, 4, 5 autres semaines, les gens font le travail qui a donné des résultats partout. Pourquoi ça ne va pas donner ici?
Sur terrain, l'armée congolaise et les casques bleus de la mission onusienne en RDC sont sur tous les fronts avec des défis énormes aussi, mais restez pessimistes. Les porte-parole de l'armée à Beni, l'officier Makazukai.
Les FADC se battent contre l'ADEF, contre les Maïmaï. Il y a Ebola qui nous guette, qui nous inquiète, nous tous. Nous sommes obligés de dégrainer quelques militaires pour les mettre à la disposition des équipes de riposte.
Un soutien régional est donc plus que jamais important, souligne les maires de la ville de Beni, qui expliquent que les phénomènes ADF perdurent à cause des reliefs montagnés et une forêt dense autour de la ville de Beni. Nyoni Bwanakawa, maire de ville.
Ces actes renseignent très bien que le mode opératoire de l'ennemi, c'est le terrorisme. Et puis, à partir du moment où l'on sait que les EIDF, c'est une mosaïque des nationalités qui se cachent dans la forêt, voilà là où nous avons toujours sollicité l'effort et l'intervention de la communauté internationale. Si aujourd'hui c'est Beniville qui paye les frais, demain ce sont tous les pays des Grands Lacs qui vont être embrasés par le phénomène EIDF.
Depuis 4 ans maintenant, l'armée fait face à ce qu'elle appelle une guerre asymétrique contre les ADF, créée à l'origine contre les présidents ougandais Yoweri Museveni. Depuis, les membres de ce mouvement ont érigé leurs bases arrière dans la région de Beni. La société civile locale et l'ONU les accusent d'avoir tué au moins 800 civils et kidnappé d'autres. Plus de 2 mois maintenant, cette région est confrontée à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Dans son bulletin quotidien, des informations liées à la riposte datées du 16 octobre, le ministère congolais de la Santé renseigne que 139 décès ont été enregistrés sur les 217 cas signalés avec plus de 17 000 personnes vaccinées en province du Nord Kivu et dans celle de l'Ituri voisine. Charlie Kasserek à VOA Afrique, Beni.
Morgane Guiriec en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, gros plan sur les élections locales en Côte d'Ivoire. La coalition au pouvoir, le RHDP du président Alassane Ouattara, a remporté les locales et les municipales après sa rupture avec le PDCI de Conan Bédié, désormais dans l'opposition. Les indépendants ont su tirer leur épingle du jeu en remportant plus de mérite que le PDCI. Que signifient ces résultats pour l'élection présidentielle de 2020? On en discute ce jeudi à 19h, temps universel.
Direction Dakar au Sénégal pour parler de transport et leurs coûts aussi bien pour ceux qui se rendent au nouvel aéroport à une 50aine de kilomètres de la capitale et pour ceux qui se déplacent au centre-ville. Un reportage de John Lyndon, notre envoyé spécial à Dakar.
Avec l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne le 7 décembre 2017, le Sénégal s'est aussi doté d'une autoroute censée faciliter la circulation. Mais problème, les tarifs pratiqués par les taxis desservant cet aéroport sont très élevés. Babacar Mbaye, chauffeur de taxi.
Je viens de l'aéroport comme ça. Je passe souvent d'ici à l'aéroport à Dakar. Je passe souvent sur l'autoroute. Et les gens plaignent. C'est vrai. L'autoroute est chère. On paye trop cher même. Trop cher même. Parce que d'ici à Dakar, si c'est un taxi, l'aéroport à Dakar, si c'est le taxi, tu prends un taxi, tu payes 20 000 francs.
20 000 francs, c'est pas une somme au-delà des bourses de la plupart des Sénégalais, surtout dans un contexte où dans plusieurs familles, accompagner un parent qui part en voyage est souvent un moment important. Babacar Mbaye.
Quand quelqu'un voyage, les gens vous accompagnent à l'aéroport. Pour l'accompagner une personne à l'aéroport, tu payes 20 000 aller. De retour aussi, tu payes 20 000. Tu es obligé parce que tu restes pas là-bas.
Il faut donc diminuer les prix, estiment certains, d'autant plus qu'il y a une autre préoccupation soulevée par les chauffeurs. La présence de 3 postes de péage sur un tronçon d'environ 50 km. Babacar Mbaye.
Ici, à l'aéroport, tu payes 3 péages. 3 péages. Chaque péage, là, tu payes 1 000 francs. 3 500. Si tu travailles à Hambourg, par exemple, tu travailles à Dakar ou vous habitez à Hambourg, 50 km d'ici là-bas. Donc, aller-retour, tu payes 6000 francs, c'est trop.
Heureusement, il existe plusieurs autres options pour les moins nantis. Ainsi, la compagnie publique Dakar Demdik, qui dessert aussi bien les zones interurbaines qu'urbaines, a des prix compétitifs. 600 francs en moyenne entre l'aéroport et le centre-ville de Dakar. À l'intérieur de la ville, vous pouvez bien sûr compter sur les taxis ordinaires, mais surtout sur les célèbres cars rapides que vous pouvez emprunter avec 50, 100 ou 150 francs CFA. Et si vous êtes plutôt traditionnel, la calèche tirée par un cheval fera peut-être votre affaire. Mais quel que soit le moyen de transport que vous choisirez, la musique ne sera pas de trop. John Linden, Dakar, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, Médecins du Monde a publié son rapport sur l'accès aux droits et aux soins en France. Sur les plus de 24 000 personnes accueillies en 2017 dans des centres de Médecins du Monde, la presque totalité était des étrangers, dont 45% originaires d'Afrique subsaharienne. 14% des patients sont des mineurs. Claire Morin-Gibourg a joint le docteur Patrick Bouffard, médecin bénévole à Médecins du Monde.
Cet observatoire existe depuis plusieurs années et ce qui nous a le plus choqué, c'est bien sûr qu'il y a une pérennisation des situations d'exclusion et de vulnérabilité, mais surtout on a un très très fort sentiment d'aggravation de la situation. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a voulu faire de cet observatoire vraiment un objet politique, un objet d'interpellation politique, parce que les constats médicaux que nous faisons sont extrêmement inquiétants.
Dans ce rapport, on note aussi que 14% des patients sont des mineurs. Pourquoi ces patients viennent-ils vous voir ?
Souvent, ce sont des populations qui sont totalement marginalisées, qui n'ont pas pu avoir accès à l'ouverture à leurs droits de santé ou même l'accès aux structures de santé du droit commun.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que certains mineurs n'ont pas accès à la santé universelle en France ?
Alors c'est bien ça la problématique, c'est que souvent ces jeunes mineurs qui arrivent en France et qui, même parfois on pourrait d'ailleurs étendre la problématique à de très jeunes adultes, hein, je veux dire le problème est exactement le même. Malheureusement, les dispositifs du droit commun, ce qu'on appelle donc l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, est totalement débordée. Hein, déjà, c'était des services qui, même en dehors de la crise de l'accueil migratoire, étaient déjà en forte tension, sont complètement débordés. Et nous, ce qui nous interpelle vraiment de manière très importante, c'est quand ces jeunes personnes arrivent en France, eh bien, elles sont confinées à la rue. Hein, le temps de s'orienter vers des structures, etc. Malheureusement, le droit commun n'est pas organisé pour les accueillir de manière digne. On en est vraiment là, c'est un problème de dignité d'accueil, parce que les structures du droit commun sont totalement débordées et saturées. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait que notre interpellation soit puissante par rapport à cet observatoire, parce que c'est vraiment une inquiétude politique générale. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'on décide de se mettre en ordre de bataille pour avoir un accueil digne des personnes. Je ne pense pas qu'on puisse parler de crise de la migration, mais je pense qu'en France actuellement, il faut parler de la crise de l'accueil des personnes. Et là, évidemment, le cas des mineurs isolés est totalement emblématique, parce qu'on se retrouve à l'abandon d'enfants dans la rue. Je pense qu'il faut considérer qu'actuellement en France, il y a des enfants à la rue et que ça, c'est totalement inadmissible.
Le docteur Patrick Bouffard, membre du conseil d'administration de Médecins du Monde. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Dan Crawford, à la présentation, Ekiabadou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme en notre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM,
Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.